Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 7 avril 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Relance des liens irano-saoudiens, les États-Unis se sentent choqués, déclaration de la CIA. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission, merci d'être avec nous. À la une de ce journal, l'attaque nocturne des seigneurs de la guerre sioniste contre Gaza et le Liban est la réponse puissante de la résistance. Crimes et agressions israéliens contre les Palestiniens et les valeurs sacrées islamiques, l'Iran appelle à une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique. Et puis la rencontre entre les ministres iraniens et françaises des affaires étrangères à Pékin. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les avions de combat israéliens ont lancé une série de frappes aériennes contre la bande de Gaza assiégée, ciblant plusieurs endroits sur le territoire côtier. L'armée israélienne affirme que les frappes ont touché plusieurs sites appartenant au mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas. Selon des sources palestiniennes, les frappes israéliennes ont visé des positions au nord et au sud de la bande de Gaza, notamment près de la ville de Gaza et à l'est de Khan Younes. Un poste d'observation à l'est de la ville de Gaza et des terres agricoles ont été touchés lors des attaques nocturnes d'Israël. En réponse, des groupes palestiniens ont tiré des salves de roquettes sur des colonies israéliennes dans les territoires occupés. À cela s'ajoutent des missiles anti-aériens. En conséquence, des sirènes ont retenti dans les territoires occupés près de Gaza. Tel Aviv affirme que les frappes aériennes étaient en réponse à des roquettes tirées plus tôt depuis Gaza. Le mouvement de la résistance Hamas a réagi à l'attaque affirmant qu'Israël était entièrement responsable des conséquences de son agression contre Gaza. Le porte-parole du Hamas a également déclaré qu'Israël paierait le prix de son crime dans la mosquée Al-Aqsa et de son agression contre la bande de Gaza. Alors que la tension entre Israël et la Palestine s'est accrue après l'attaque policière contre la mosquée Al-Aqsa à Rodez-Est occupée et que l'on craint qu'elle ne devienne incontrôlable et ne rende la situation dans la région plus critique, l'armée israélienne a attaqué des zones au Liban et Gaza tôt ce vendredi. Des avions de guerre israéliens ont lancé une attaque de missiles sur des cibles au sud du Liban à la suite des frappes aériennes du régime contre la bande de Gaza et des représailles de la résistance palestinienne. Des sources libanaises ont déclaré que les missiles du régime visaient une zone située entre Ras al-Ain et le camp de réfugiés de Rachidié, près de la ville de Tyr, dans le sud du Liban. L'armée du régime a également confirmé que ses avions avaient tiré des missiles sur le camp de réfugiés palestiniens tôt vendredi. Selon certains rapports, des avions de combat israéliens ont tiré 6 missiles sur des cibles à proximité de tir. L'armée israélienne a affirmé avoir attaqué des cibles appartenant au mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, dans le sud du Liban. Rien n'a filtré dans les médias sur d'éventuelles victimes ou dégâts matériels suite à l'attaque. Le premier ministre libanais, Najib Mikati, a vivement condamné l'attaque israélienne. Le ministère libanais des Affaires étrangères a assuré que le Liban souhaitait maintenir la paix et la stabilité dans la région et a demandé à la communauté internationale de faire pression sur Israël pour qu'il arrête l'escalade des tensions. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a rencontré une délégation de hauts responsables du Hamas à Beyrouth alors que les tensions montent dans les territoires palestiniens occupés après que des forces israéliennes ont violemment pris d'assaut l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa et attaqué des fidèles palestiniens. Sayed Hassan Nasrallah a rencontré des autorités du mouvement de la résistance Hamas basé à Gaza, dont Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du groupe, Cheikh Saleh Al-Harouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, et de hauts responsables comme Khalil Al-Haya et Oussama Hamdan, selon les médias palestiniens. Au cours de leur rencontre, Nasrallah et les responsables du Hamas ont passé en revue les derniers développements politiques et sur le terrain en Palestine, au Liban et au Moyen-Orient, en particulier les récents affrontements dans la bande de Gaza en Cisjordanie occupée et à Rosseste occupée. L'Iran a appelé à une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique pour discuter de l'agression d'Israël contre les Palestiniens dans les territoires occupés. Le président iranien Ibrahim Raisi a passé l'appel lors d'une conversation téléphonique avec son homologue indonésien Joko Widodo. Il a déclaré que la défense des droits du peuple palestinien est un principe immuable pour l'humain islamique. Le président Raisi a ajouté que l'unité du monde musulman est nécessaire pour contrer les crimes et les actes d'agression d'Israël. Il a également appelé à une plus grande convergence entre les nations musulmanes et à un approfondissement des relations entre elles. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'OCI, Hussein Ibrahim Taha, appelant à une réunion d'urgence de l'organisation. Taha a déclaré que l'OCI tiendrait une réunion d'urgence du comité exécutif samedi pour discuter des attaques d'Israël contre la mosquée d'Al-Aqsa. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue française, Catherine Colonna, se sont rencontrés et discutés à Pékin, profitant de la présence simultanée des délégations de haut rang des deux pays en Chine. Lors de la rencontre, diverses questions liées aux relations bilatérales, ainsi que des questions d'intérêt commun liées aux évolutions régionales et internationales, ont été discutées et échangées. Certaines questions consulaires ont également été soulevées et échangées toujours lors de la rencontre. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et françaises ont également souligné la nécessité du respect mutuel et de la poursuite des dialogues conjoints. En visite d'État à Pékin, à la tête d'une haute délégation, le président français a salué l'initiative de la Chine pour le règlement du conflit en Ukraine. Emmanuel Macron estime que Pékin peut jouer un rôle majeur dans l'établissement de la paix dans ce pays. L'Irak alloue un budget à une liaison ferroviaire clé avec l'Iran. L'Irak s'est engagé à lancer un projet ferroviaire le reliant à la frontière iranienne. Le gouvernement irakien a pour la première fois alloué un budget à un projet ferroviaire clé qui relie le port méridional de Bassora à la ville frontalière iranienne de Chalamche, selon un haut responsable du ministère iranien des Affaires étrangères. Mehdi Safari, vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour la diplomatie économique, a déclaré jeudi 6 avril que l'Iran et l'Irak étaient parvenus à un accord pour lancer les travaux de construction tant attendus du projet ferroviaire de 32 km après le mois sacré du Ramadan fin avril. L'Irak a alloué un budget de près de 230 millions de dollars pour le chemin de fer Chalamche-Bassora et cela se produit pour la première fois, a déclaré M. Safari. Ces commentaires sont intervenus un jour après que le ministre irakien des Transports a effectué une visite à Téhéran pour finaliser une série d'accords et de projets bilatéraux, y compris le projet de chemin de fer transfrontalier. Les experts disent que le lancement de la liaison ferroviaire Chalamche-Bassora entraînera une augmentation importante du commerce et du tourisme religieux entre l'Iran et l'Irak. Le projet donnera également à l'Iran un accès ferroviaire à la Syrie et à la Jordanie via le territoire irakien, tout en permettant à l'Irak de prendre livraison de marchandises via le vaste réseau ferroviaire iranien depuis d'autres pays. Enfin, la Maison-Blanche a publié un rapport expurgé sur le retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan, admettant un échec massif du renseignement dans le processus. La Maison-Blanche a admis un raté des services de renseignement, mais défendu globalement la décision de l'exécution du retrait d'Afghanistan, le considérant comme le seul scénario Dixit envisageable. L'administration Biden a par ailleurs rejeté la responsabilité de ce retrait chaotique sur Donald Trump et ses décisions. Le président américain Joe Biden a transmis jeudi au Congrès les documents classifiés relatifs au retrait irresponsable d'Afghanistan, réclamés de longue date en particulier par les Républicains. La Maison-Blanche a profité de l'occasion pour justifier cette décision qui a mis fin en août 2021 à la plus longue guerre de l'Amérique. En fin de compte, après plus de 20 ans, plus de 2 000 milliards de dollars dépensés et l'organisation d'une armée afghane de 300 000 militaires, la vitesse et la facilité avec laquelle les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan suggère qu'il n'y avait pas d'autres scénarios qui auraient pu changer la trajectoire, à l'exception d'une présence militaire américaine permanente et nettement renforcée, selon ce compte-rendu distribué à la presse. Le rapport indique que les services de renseignement américains n'ont pas pu comprendre la force des talibans et les points faibles des forces du gouvernement fantoche afghan. Il a cependant imputé l'échec à un accord conclu entre l'administration de l'ancien président américain Donald Trump et les talibans. Le rapport affirmait que l'accord plaçait l'administration Biden dans une position impossible car il avait une date de retrait mais aucun plan pour l'exécuter. 13 soldats américains et 170 Afghans ont été tués lors du retrait irresponsable américain d'Afghanistan en août 2021. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Relance des liens irano-saoudiens, les États-Unis se sentent choqués, déclaration de la CIA. Le directeur de la CIA, William Burns, a exprimé sa frustration face à la décision de Riyad de rétablir ses relations avec Téhéran et Damas, alors que les observateurs soulignent le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient. Selon le Wall Street Journal, le directeur de la CIA, William Burns, a effectué une visite inopinée cette semaine à Riyad pour discuter avec les responsables saoudiens de la coopération en matière de renseignement. Lors d'une rencontre avec le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, Burns s'est plaint que Washington se sentait pris au dépourvu par les mesures prises par Riyad pour rétablir les liens avec l'Iran et la Syrie, faisant l'objet des sanctions de l'Occident. Il a exprimé la frustration des États-Unis d'être exclus des évolutions de la région. Les chefs de la diplomatie iranien et saoudien ont convenu ce jeudi à Pékin, capitale chinoise, de travailler ensemble afin d'œuvrer à la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient. Cette rencontre intervient moins d'un mois après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays qui devraient rouvrir leurs ambassades respectives d'ici mi-mai et mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité. Les hauts diplomates iraniens et saoudiens ont également exprimé leur gratitude envers Pékin pour avoir accueilli cette réunion. Certains experts estiment que cela annonce une accélération du déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient, d'où l'ascension de la Chine en tant que puissance mondiale. Washington a réagi au rapprochement irano-saoudien avec scepticisme, disant qu'il attendait de voir les résultats. Mais Téhéran et Riyad se sont montrés sérieux quant à la reprise des relations et le président iranien Ibrahim Raisi accepter une invitation du roi saoudien. Les commentaires de Burns contredisent la position officielle de Washington selon laquelle l'Arabie saoudite l'a tenu informé de ses pourparlers avec l'Iran en vue de rétablir les relations diplomatiques. Les Saoudiens nous ont tenus informés de ces discussions qu'ils avaient, tout comme nous les tenons informés de nos engagements, a déclaré le mois dernier le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Autre changement de politique étrangère, Riyad a également pris des mesures pour rétablir les liens avec Damas, malgré l'opposition de Washington. Le royaume devrait inviter le président syrien Bachar Assad à un sommet de la Ligue arabe en mai. Selon des informations, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, devrait se rendre en Syrie dans les prochaines semaines pour remettre personnellement une invitation officielle au président Assad. La dernière visite de Burns en Arabie saoudite intervient alors qu'il s'est forgé une réputation d'émissaire dans la Maison-Blanche pour les missions de politique étrangère sensibles.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant l'Afrique et son envie de se séparer de l'Occident, en tout cas la division existe, c'est le sujet du jour. Pour ce faire, nous avons donc préparé un reportage faisant un résumé de ce qui se passe notamment au Mali, en Afrique, concernant l'Occident et ses relations de plus en plus tendues. Et par la suite, nous ferons donc venir nos invités. Je vous propose donc notre reportage.
Encore toujours le même scénario pour ternir l'image des pays souverainistes. Le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du Département d'État des États-Unis a publié sur son site Internet le rapport annuel 2022 sur les pratiques des droits de l'homme au Mali. La réponse du gouvernement du Mali ne s'est pas fait attendre contre ce rapport dont l'objectif est connu, ternir l'image du Mali, ce qui est surprenant de la part d'un pays, les États-Unis, dont l'armée a commis de pires atrocités à travers le monde, et plus précisément en Irak. Le gouvernement du Mali a qualifié de sans fondement les accusations de violation et d'atteinte aux droits de l'homme proférées à son encontre par le département d'État américain dans un rapport publié le 20 mars dernier sur son site Internet. Ce qui est surprenant, c'est que ce genre de rapport vient toujours de la part des pays comme les États-Unis ou encore la France, dont l'armée a commis les pires atrocités à travers le monde, notamment en Irak, Libye, Vietnam, etc. D'ailleurs, il est tout aussi intéressant de rappeler qu'historiquement parlant, les États-Unis sont les seuls à avoir utilisé la bombe atomique sur des civils. En d'autres termes, ce sont ceux qui ont commis le plus de massacres dans le monde sans jamais être sanctionnés, qui ont toujours quelque chose à dire sur les droits de l'homme et qui veulent toujours s'ingérer dans les affaires intérieures des pays africains. Au Mali, au Burkina et en Afrique en général, le sentiment anti-français et anti-occidental se répand de jour en jour et c'est dans ce contexte que le gouvernement militaire du Burkina Faso a expulsé ce samedi 1er avril deux correspondants des quotidiens Le Monde et Libération. Récemment, le Burkina Faso a suspendu les émissions de la chaîne France 24 après que la chaîne ait diffusé une interview d'un dirigeant en Al-Qaïda. En décembre, il a également suspendu Radio France Internationale, RFI, l'accusant d'avoir diffusé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste. Ces médias n'arrivent plus à manipuler les Africains. Les médias français ou occidentaux n'ont plus aucune emprise en Afrique et les ingérences occidentales dans les affaires intérieures des pays africains sont de plus en plus contestées par les gouvernements et les citoyens africains.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Nous allons d'abord faire venir nos invités. Premier invité étant M. Philippe Hugon, reporter, notre expert en reporter de guerre. Bonjour M. Philippe Hugon.
Bonjour et bonjour à tous vos invités.
Merci. Alors, notre deuxième invité étant M. Luc Michel, que vous connaissez bien, expert en géopolitique et notamment sur la question panafricaine. Bonjour M. Luc Michel.
Bonjour à vous, bonjour à M. Hugon et heureux de vous retrouver.
Nous aussi. Alors, le sujet, vous ne serez pas étonné, après donc ces voyages de la vice-présidente des États-Unis, donc Harris, en Afrique, on a pu voir donc tout d'un coup une sorte de discordance au niveau de son voyage, puisque les présidents, chefs d'État africains n'ont pas hésité à dire qu'ils ne supprimeront pas leurs relations avec la Chine. Donc, ils ont envoyé en émissaire Harris pour essayer de faire oublier la mauvaise pilule américaine, et pourtant, ce n'est pas passé. On voit bien que l'Afrique se divise de l'Occident, en tout cas cherche à avoir le choix. Alors, Monsieur Luc Michel, qu'est-ce que vous pensez donc de ce voyage qui s'est terminé récemment et également du fait que maintenant, suite aux réactions du Burkina Faso et du Mali en premier, les journalistes français, occidentaux notamment, donc sont rejetés et sont demandés de retourner dans leur pays.
Il y a une remarque immédiate. Il faut dire que le voyage de Kamala Harris, comme bon. Les voyages d'Anthony Blinken et de Macron, ça a été un échec. Les Africains ne se laissent plus prendre au piège de l'Occident comme ils se sont fait prendre en 2014 ou en 2019. La seconde chose, c'est que la guerre en Afrique, elle est centrée sur ce qu'on appelle une guerre médiatique que les Français appellent la cyberguerre et qui est confiée à un département de l'armée française, le Cybercommand, sous le commandement du général Yanis. Les Français sont en train de perdre cette guerre, les Américains aussi. Ils sont en train d'éjecter d'Afrique. C'est la BBC et les médias d'État français qui disent qu'ils ont perdu en Afrique. Et hier matin, justement, Macron a violemment attaqué les Gilets jaunes et les réseaux russophones. Et il a dit qu'il était en train de perdre la guerre en Europe. Voilà ce qui se passe.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, nous avons vu à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le Mali réagir face aux journalistes français, notamment les premiers visions étant France 24 et RFI, surtout RFI. Le Burkina Faso a continué sur la même ligne d'onde et on voit que c'est la réaction de ces deux pays, de ces deux États du continent africain, ont fait réagir les autres États africains comme un effet domino. Et ce voyage avec Madame Harris, qui n'a pas été finalement simple pour elle, puisqu'elle n'a pas été accueillie comme les États-Unis ont l'habitude d'être accueillis en Afrique. Vous-même, quand vous voyez donc ces démarches des pays africains tout d'un coup faire écho à ce que fait le Mali et le Burkina Faso depuis un ou deux ans, qu'est-ce que vous voyez dans ça?
Moi, ce que je vois surtout, c'est que depuis 50-60 ans, la France, qui était très présente en Afrique, et avait, je dirais, écarté du pouvoir des Africains, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, et avait écarté des gens, des politiciens qui étaient très performants, et on les avait remplacés par des gens qui étaient sous la coupe de l'Occident. Donc, moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui qu'il y a un réveil de la part de l'Afrique, où aujourd'hui, on le voit, tous ces pays émergents, et bien de ces pays émergents, on voit émerger des dirigeants africains qui sont vraiment très compétents et très performants. Donc, ils ne sont plus du tout prêts à accepter les dictats du monde occidental et plus particulièrement de la France, puisqu'on parle d'une zone où la France était très, très présente. Eh bien, je dirais que c'est une réaction normale de la part de ces dirigeants africains et du réveil de ces pays africains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si l'enseignement était marginal il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, peut-être même encore une trentaine d'années, aujourd'hui, on voit des tas de jeunes Africains fréquenter des universités, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et ces gens-là ont maintenant une vue d'ensemble qui est beaucoup plus performante et qui leur permet d'envisager une véritable autonomie sans être obligé de subir les dictats financiers, politiques et les éventuelles répressions. Hein. Il faut bien savoir qu'en Afrique, la France a fait quand même assassiner un certain nombre de responsables politiques en Afrique. Hein. Ça, c'est quand même une réalité, et il faut le dire. Donc, il est normal aujourd'hui que ces pays se réveillent et désire avoir une totale indépendance et ne plus dépendre de la politique, qu'elle soit française, américaine ou de qui que ce soit. Ce sont des gens qui veulent leur indépendance, qu'ils revendiquent aujourd'hui. Et je trouve que même si ça va créer une période un peu d'instabilité ou une période de flottement dans ce genre de pays, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose, car ils arriveront à stabiliser la situation, même si ça prend un petit peu de temps par rapport à leur situation économique et politique. Mais c'est une très, très bonne chose qu'aujourd'hui, ces pays-là se réveillent et qu'il y ait des dirigeants performants et qui puissent mener une politique dont ils ont envie pour le développement de leur pays.
Merci, merci, Monsieur Philippe Hugon. Alors, nous avions vu, avec l'époque de Monsieur Gbagbo en Côte d'Ivoire, le fait que beaucoup d'États africains ont critiqué en fait la CIJ, donc la Cour internationale de justice, indiquant que c'est que le continent africain qui est touché par cet organisme, et également le fait que Laurent Gbagbo avait été kidnappé chez lui dans son pays, donc un problème de souveraineté avec la Russie et ce qui s'est passé avec la Russie pour Poutine, avec la CIJ. Mais cette fois, si ces propos étaient vus un peu comme du complotisme, maintenant c'est vu comme un état de fait, c'est-à-dire que la CIJ ne réagit que quand elle veut bien réagir. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord? À l'époque, quand on avait parlé de l'affaire Gbagbo, il y avait quand même une forme de complotisme dans la manière d'en parler. À l'heure actuelle, on dit clairement la CIJ est dans les mains des pays occidentaux et nous ne suivons plus ce genre d'organisme. C'est les propos maintenant tenus par même des chefs d'État africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez vraiment même des pays africains qui étaient pro-Occident ne plus vouloir se rattacher à ces outils?
Écoutez, dans une période qui allait de 1960 à 2015, les Occidentaux étaient tout puissants en Afrique, en particulier la France qui était le gendarme des Occidentaux. Mais depuis le retour des Russes et l'émergence du néo-panafricanisme, c'est terminé. Il faut donner une précision. Ce n'est pas les chefs d'État qui veulent que l'Afrique change, à part quelques-uns comme Ouattara ou le l'Équato-Guinéen ou bien Guinée Bissau. Ceux qui veulent que ça change sont les masses panafricaines qui contraignent les chefs d'État à changer. Et ils ont été aidés, évidemment, par l'arrivée, le retour de la Russie en Afrique à partir de 2016, puisqu'ils apportent de l'oxygène diplomatique et géopolitique. La réaction contre la CIJ, elle a commencé en Afrique. Au départ, il y a le tribunal international pénal pour la Yougoslavie, qui est une institution uniquement anti-serbe. Ensuite, il y a la CIJ, qui est une institution qui fonctionne contre les Africains, contre Gbagbo, contre les Kadhafi, etc. Mais ça s'est terminé. À partir de 2016, il y a un premier État africain qui se révolte. C'est le Burundi de Kurundiza qui quitte la CEJ et qui déclenche un tollé international. Aujourd'hui, les masses africaines ne veulent plus de ce que les États-Unis, qui ne reconnaissent pas la CEJ, appellent le Gangarukurt, un tribunal gangourou, qu'on peut traduire en français par un tribunal fantoche.
Merci, monsieur Luc Michel. Alors, je rappelle à notre expert, surtout dans les questions panafricanistes. Alors, monsieur Philippe Hugon, vous vous rappelez lorsque l'accord de Vienne, donc l'accord nucléaire avec les Iraniens, avait sauté du fait des actions des Américains, beaucoup d'experts avaient mis les warnings en disant attention, si nous sautons les accords internationaux, après, pourquoi les pays vont continuer à nous suivre et surtout vont continuer à faire ce genre d'accord, puisqu'il serait possible de les annuler. Alors, c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Quand Madame Harris, donc Kamala Harris, est partie en Afrique, les Africains ont eu des bonnes raisons de ne plus y croire, puisque l'un des pays les plus forts du Moyen-Orient a carrément été complètement sauté en quelques mois seulement de mise en place. Est-ce que c'est l'une des conséquences de ce tsunami d'accords qui ne sont pas respectés par la partie occidentale?
Oui, ben, de toute façon, moi je pense que les Occidentaux n'ont jamais vraiment respecté les accords, ou du moins les ont respectés uniquement si ces accords étaient à leur avantage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de crédibilité de la part du monde occidental, qui n'est plus crédible aux yeux des Africains et qui n'est plus crédible auprès d'un certain nombre de populations dans le monde occidental. Je pense qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent quand même beaucoup plus qu'ils le faisaient il y a 40 ans, et qu'aujourd'hui, ben, ces grandes nations, que ce soit les États-Unis ou la France, n'ont plus aujourd'hui la possibilité de pouvoir imposer. Alors non seulement elles n'ont plus la possibilité, mais elles n'ont plus la légitimité de pouvoir remettre éventuellement des accords en question, ou des accords économiques, ou des accords financiers. Je pense que malheureusement, dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent pour de mauvaises raisons. Et quand je dis qu'ils meurent, c'est principalement des populations civiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et je pense que nous sommes irresponsables dans la façon dont nous gérons les affaires internationales. Et je pense qu'on devrait prendre beaucoup plus en compte le côté humain, malheureusement, qui est très malmené par les intérêts économiques et économiques, financiers, alimentaires. On se permet de faire du chantage à un certain nombre de pays si ces pays-là ne soutiennent pas de grandes nations. Donc, on est vraiment, je pense, à un tournant aujourd'hui au niveau international et notamment au niveau de l'Afrique, avec cette nouvelle catégorie de dirigeants africains qui arrive maintenant à la tête des États, du moins dans les gouvernements, et il va falloir composer avec ces gens-là, ce qui est normal, et laisser ces pays se développer à leur rythme et de respecter leur façon de faire. On ne peut pas continuellement, nous, monde occidental, imposer au monde des choses comme on les a imposées jusqu'à présent, et surtout des choses qu'on a imposées par la force. N'oublions pas qu'il y a quand même des responsables politiques africains qui ont été assassinés de façon à pouvoir garder un pseudo-pouvoir sur un grand nombre de pays d'Afrique.
Oui, il n'y a pas eu que ça. Il y a également eu des déportations d'Africains, des experts africains, panafricanisme en Europe. C'était même, ils étaient exilés de leur pays, devaient rester en Europe. Donc il y a eu des exils forcés sur le continent africain, qui n'a pas été forcément divulgué par les médias, mais ce sont des choses qui existent et qui ont toujours existé. Alors, Monsieur Luc Michel, nous avons vu donc une réaction internationale, notamment poussée par les BRICS, par le fait construire des monnaies, ou tout simplement d'utiliser les monnaies des pays en les revaluant et en pouvant faire des échanges monétaires. On a souvent parlé de l'influence de la Russie et de la Chine en Afrique, mais en ce moment en Afrique, il y a également les Africains, les différents pays africains qui cherchent à renouer contact déjà d'un point de vue du terrain, puisque beaucoup de constructions sont en route au niveau ferroviaire, au niveau des aéroports, au niveau même des terrains. Donc on a vu quand même, il y a beaucoup de projets à l'heure actuelle permettant à ce que les pays puissent se joindre au niveau routier, ce sont des projets 100% africains. Donc l'Afrique ne se repose pas que sur la Russie et la Chine, je me trompe ?
Non, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement panafricaniste. La Russie et la Chine sont les alliés de ce mouvement, comme elles l'étaient du temps de l'Union soviétique. Mais le mouvement est panafricain. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'un des buts de Poutine en Ukraine, c'était de dynamiter l'ordre mondial. Il est en train de réussir. Et la principale aide, elle vient des Occidentaux et des États-Unis, qui sont en train de vider leurs institutions internationales de 1945 de toute légitimité, de toute efficacité. On le voit au niveau de la CEJ, on le voit au niveau de l'ONU, etc. Le monde entier en a marre de l'Occident qui représente 15% de la population mondiale et qui pratique l'hypocrisie et le double standard. L'exemple typique, c'est la CEJ. On voit les États-Unis qui ne reconnaissent pas le tribunal, obligent les peuples du monde à s'y soumettre. Et Donald Trump a même été plus loin, puisqu'il a sanctionné les magistrats de la CPI et qu'il a voté une loi américaine qui permet à l'armée américaine d'intervenir à La Haye, donc aux Pays-Bas, sur un pays de l'OTAN, pour aller libérer les citoyens américains qui seraient illégitimement détenus par la CEJ. C'est toute cette hypocrisie qui ne marche plus.
Ok. Et vous pensez donc que l'avenir africain va pouvoir se lier, je veux dire, quand on voit les différents projets, monsieur Philippe Hugon, quand on regarde les différents projets qui existent à l'heure actuelle en Afrique pour les pays africains, par les Africains, quand on regarde par exemple le port de la Côte d'Ivoire qui maintenant influence tout le continent africain en devenant un port extrêmement important, mais également on voit les projets de lignes routières qui sont en train de se lier entre différents États. La sécurisation de ces lignes routières, est-ce que vous pensez que c'est là l'avenir de l'Afrique ?
Moi, je pense que l'avenir de l'Afrique est quand même un avenir difficile dans le sens où il ne faudrait pas que les gens, certains États en profitent pour remettre la main dessus, même si ce n'est plus les mêmes dirigeants, même les mêmes pays. Donc il faut être assez prudent dans le développement qu'il y aura. Maintenant, je pense que l'Afrique va connaître encore une période de flottement pendant quelques années, mais je suis quand même optimiste à terme dans le développement de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose pour eux. Hein, il est clair qu'aujourd'hui, on avait souvent parlé de la France-Afrique. Donc cette influence qui était vraiment très néfaste pour les Africains et non pas pour les Occidentaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une modification de la pensée avec l'arrivée de ces nouveaux dirigeants africains qui vont être capables de pouvoir diriger leur pays au niveau politique, au niveau économique et apporter enfin un développement qui soit un peu plus durable pour tous ces pays. Maintenant, moi, je voudrais rappeler quand même que tous ces conflits organisés par le monde occidental font des dizaines de milliers de victimes chaque année, jettent des enfants dans la guerre, dans les ruines, dans la désolation. Et comme je vous disais, je trouve qu'il y a trop de gens qui meurent pour de mauvaises raisons. Et il est temps que tout ceci s'arrête et qu'il y ait enfin un développement durable et raisonné de façon à ce que l'Afrique puisse se développer à sa vitesse et qu'on puisse respecter enfin un certain nombre d'accords, bien sûr, mais surtout que l'on puisse respecter leur vitesse de développement qui n'est pas forcément le même en fonction des pays et des richesses de ces pays, mais il faut à tout prix qu'on trouve un équilibre afin que l'Afrique puisse se développer.
Merci, monsieur Philippe Hugon. Monsieur Luc Michel, vous voulez rajouter quelque chose au propos de monsieur Philippe Hugon ?
Je voulais dire que le développement de l'Afrique se fera uniquement si l'Afrique continue à être alliée au bloc de l'Est, à la Chine, à la Russie et à l'Iran. Les Occidentaux n'apportent que le néocolonialisme et l'exploitation. C'est cela qu'il faut revenir dans l'affaire. Par exemple, le développement des infrastructures en Afrique, elle prend place dans le cadre du projet chinois des routes de la soie. C'est le grand tournant stratégique de la dernière décennie. C'est justement l'arrivée du bloc de l'Est en Afrique qui a donné aux possibilités aux dirigeants africains de choisir leur développement, de choisir leur mode d'alliance, etc. C'est cela qui est insupportable aux Occidentaux.
Merci à M. Luc Michel, merci M. Philippe Hugon. Ce sont sur ces propos, c'est ce sujet que nous finissons le débat. Je vous remercie à nos chers experts de participer donc à nos débats. Vous, chers auditeurs, je vous remercie également de nous regarder. N'hésitez pas à nous suivre et à nous revoir sur notre site ou nos réseaux sociaux, notamment VK, Telegram ou encore Twitter. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir, ici à partir des locaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les récentes agressions israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa. La République islamique d'Iran a condamné l'attaque barbare des forces israéliennes contre des dizaines de fidèles palestiniens qui s'étaient rassemblés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, où ils accomplissaient pacifiquement les rituels du mois béni du Ramadan. L'attaque sauvage de l'armée usurpatrice du régime sioniste contre les pèlerins et les fidèles palestiniens à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa a une fois de plus révélé au monde la nature criminelle et inhumaine du régime sioniste, a écrit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani sur son compte Twitter le mercredi 5 avril. Nous condamnons fermement ce crime commis par l'entité sioniste dans la mosquée Al-Aqsa. Il appartient au monde musulman, au peuple épris de liberté et aux organisations internationales responsables de prendre immédiatement position contre ce crime, a-t-il réaffirmé. Armés jusqu'aux dents, des dizaines de soldats israéliens ont fait irruption dans les cours de la mosquée Al-Aqsa mardi 4 avril au soir. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes dans la salle de prière Qibli où des centaines d'hommes, de femmes, de personnes âgées et d'enfants passaient la nuit pour prier. Certains témoins ont déclaré que des balles en acier recouvertes de caoutchouc avaient également tiré sur les fidèles. Les soldats israéliens ont ensuite battu les fidèles. Ils les ont attaqués avec des matraques et des fusils anti-émeutes. De nombreux Palestiniens ont été blessés et arrêtés par les forces israéliennes. Des vidéos prises à l'intérieur de la mosquée ont montré des soldats israéliens frappant à plusieurs reprises des fidèles à coups de matraque alors qu'ils semblaient allongés sur le sol. Pendant ce temps, on entendait en arrière-plan des femmes et des enfants appeler à l'aide. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré avoir reçu plusieurs rapports faisant état de blessures à la mosquée Al-Aqsa, mais n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de victimes. Les forces israéliennes continuant d'empêcher les médecins de soigner les blessés. Le comité palestinien des affaires des détenus estime qu'au moins 400 personnes ont été arrêtées par les forces d'occupation. À la suite de cette attaque, les mosquées locales de la ville sainte de Rots ont appelé les Palestiniens par haut-parleur à y organiser un rassemblement de masse et à soutenir les fidèles qui ont été victimes des exactions de l'armée israélienne. Des centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues de la Cisjordanie occupée pour condamner l'agression et affronter les troupes israéliennes au point de contrôle et au poste militaire. En réponse à ce crime, les combattants de la résistance palestinienne basés dans la bande de Gaza ont tiré plusieurs roquettes sur les territoires occupés de la Palestine. Au moins une roquette a atterri à l'intérieur des territoires et a endommagé une usine de produits alimentaires. Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a réagi à l'offensive israélienne dans un communiqué. Ce qui se passe dans la mosquée Al-Aqsa est un crime sans précédent. Tout le monde doit prendre ses responsabilités, les Palestiniens comme les musulmans. Il a exhorté les Palestiniens de Cisjordanie et des territoires palestiniens occupés par Israël en 1948 à se diriger vers la mosquée Al-Aqsa pour protéger et défendre ce lieu saint. De son côté, Ziad Nakhala, chef du djihad islamique de la Palestine, appelle les Palestiniens à se préparer à affronter l'ennemi israélien. Les événements survenus à la mosquée Al-Aqsa représentent une menace pour nos lieux de culte sacrés et il incombe au peuple palestinien de se préparer à une bataille décisive et imminente contre Israël, a-t-il réaffirmé dans un communiqué. Le mouvement Fatah a déclaré que ce qui s'était passé était dangereux et a averti que le régime d'occupation israélien en paierait le prix. Nabil Abu Rodeineh, porte-parole du président de l'autorité autonome palestinienne, a déclaré que les forces israéliennes avaient franchi les lignes rouges. Ce que le régime d'occupation fait en ce moment sur les lieux saints comme Al-Aqsa et l'attaque contre les fidèles est un exemple de la guerre féroce contre le peuple palestinien et les nations arabes, et cela affectera l'ensemble de la région, a-t-il averti. Il est à noter que plusieurs pays musulmans ont condamné les agressions israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa. L'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte, le Qatar, la Jordanie et le Pakistan ont vivement condamné l'attaque des militaires sionistes contre la foule des fidèles réunis pour la prière à la mosquée Al-Aqsa dans la matinée du 5 avril. Ils ont reconnu Tel Aviv comme responsable de l'intensification des violences en mettant des obstacles devant des efforts en cours pour établir un cessez-le-feu. Dans des déclarations séparées, ces pays ont demandé à la communauté internationale de jouer un rôle plus efficace pour arrêter les attaques des militaires sionistes contre les civils palestiniens. Selon l'agence de presse officielle saoudien SPA, le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé les inquiétudes de Riyad quant à l'intensification des attaques des militaires israéliens contre les fidèles palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa et leur arrestation. Par ailleurs, le ministère turc des Affaires étrangères a vivement condamné les attaques de l'armée israélienne contre la mosquée Al-Aqsa, où de nombreux fidèles ont été arrêtés par les soldats sionistes alors qu'ils s'étaient réfugiés dans la salle de prière Al-Kipli à l'intérieur de la mosquée. Ankara condamne vivement l'agression des forces israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa pour arrêter un grand nombre de civils palestiniens, souligne la déclaration citée par l'agence de presse turque Anadolu. Le texte a qualifié d'inadmissible l'attaque des sionistes contre les fidèles pendant le mois béni de Ramadan. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a condamné aussi les attaques contre les civils, dont des femmes, à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, par les militaires du régime israélien, en réitérant que les agressions israéliennes violaient de manière flagrante les normes internationales. Le ministère qatari des Affaires étrangères a publié mercredi 5 avril un communiqué pour condamner à son tour les agressions des forces israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa. « Nous condamnons les attaques contre les fidèles ainsi que les mesures prises par les Israéliens pour empêcher que les blessés soient transférés à l'hôpital », a souligné le communiqué. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué l'agression des militaires sionistes contre la mosquée Al-Aqsa et a exigé que la police israélienne retire aussitôt des agents et des forces spéciales de l'enceinte de la mosquée. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a aussi exprimé sa compassion avec les Palestiniens après l'annonce de l'attaque des militaires sionistes contre la mosquée Al-Aqsa. Israël ne cesse de commettre des agressions barbares pour réprimer les civils sans défense et profaner les lieux sacrés des musulmans en Palestine occupée, a souligné le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans son communiqué.